Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Suite ce mercredi d'une semaine sur Camus dans les nouveaux chemins de la connaissance, une semaine avec Camus en vérité, puisque c'est lui, Camus, dont vous entendez la voix depuis lundi dernier. Alors dans le prolongement de l'émission d'hier où nous discutions avec Michel Herman de Caligula et où Camus donc vous lisez lui-même quelques extraits de Caligula, vous allez l'entendre aujourd'hui vous raconter l'amour qu'il porte au théâtre en général, aux acteurs en particulier.
Comment ? Pourquoi je fais du théâtre ?
Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Remarquez que cette réflexion, après tout, est moins banale qu'il y paraît. Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve et qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Là-dessus, d'ailleurs, tout le monde est bien d'accord. Je lis souvent, sous des plumes austères, que des hommes d'action, ayant quitté la vie publique, se sont réfugiés ou se sont abrités dans leur vie privée. Il y a un peu de mépris, vous ne trouvez pas, dans ces termes de refuge ou d'abri? De mépris, et l'un ne va pas sans l'autre, de sottise. Pour ma part, je connais au contraire beaucoup plus d'hommes qui se sont réfugiés dans la vie publique pour échapper à leur vie privée. Les puissants, par exemple, sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'ils ne soient pas tendres. Bon, où en étais-je ? Ah oui, le bonheur. Eh bien, pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, « je suis heureux ». Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites ? Eh oui, que faire des lépreux ? Comment s'en débarrasser, comme dit notre ami Ionesco ? Et aussitôt, nous voilà tristes comme des cure-dents.
Pourtant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. Tenez, j'ai connu un homme qui n'aimait pas sa femme, ce qui n'est pas bien, et qui s'en désespérait, ce qui est mieux. Il décida un jour de vouer sa vie complètement à cette femme, par compensation en somme, et de se sacrifier à elle. Eh bien, la vie de cette pauvre femme, qui était supportable jusque-là, devint un véritable enfer. Son mari avait le sacrifice voyant, vous comprenez, et le dévouement fracassant. Il y a ainsi de nos jours beaucoup de gens qui se dévouent d'autant plus à l'humanité qu'ils l'aiment moins. Ces amants moroses se marient pour le pire, en somme, jamais pour le meilleur. Étonnez-vous après cela que le monde ait mauvaise mine, qu'il soit difficile d'y afficher le bonheur, surtout, hélas, quand on est un écrivain. Cependant, j'essaie personnellement de ne pas me laisser influencer. Je garde du respect pour le bonheur et les gens heureux, et je m'efforce, par hygiène, de me trouver le plus souvent possible sur un des lieux de mon bonheur, je veux dire, le théâtre. En 1936, ayant réuni une troupe d'infortune, j'ai monté dans un dancing populaire d'Alger une série de spectacles qui allait de Malraux à Dostoïevski en passant par Eschyle. 23 ans après, sur la scène du Théâtre Antoine, j'ai pu monter une adaptation des Possédés du même Dostoïevski. Étonné moi-même par une si rare fidélité ou une si longue intoxication, je me suis interrogé sur les raisons de cette vertu ou de ce vice si obstiné. Et j'en ai trouvé de deux sortes, les unes qui tiennent naturellement à ma nature et les autres qui tiennent à celle du théâtre.
Ma première raison, et la moins brillante, je le reconnais, est que j'échappe par le théâtre à ce qui m'ennuie dans mon métier d'écrivain. Supposez que vous vous appeliez Fernandel, ou Alican, ou Brigitte Bardot, ou plus modestement Paul Valéry. Vous auriez naturellement votre nom dans le journal. Et à partir du moment où l'on a son nom dans le journal, l'encombrement commence. Le courrier se rue, les invitations pleuvent, il faut répondre, et la moitié du temps se passe à refuser de le perdre. Une grande partie de l'activité humaine est aujourd'hui consacrée à dire non de toutes les manières. N'est-ce pas idiot ? Certainement, c'est idiot, mais c'est ainsi que nous sommes punis de nos vanités par la vanité elle-même. J'ai remarqué en tout cas que le métier de théâtre est plus respecté et qu'il suffit d'annoncer qu'on est en répétition pour qu'aussitôt un délicieux désert s'installe autour de vous. Et si vous avez de plus l'astuce, comme je le fais, de répéter toute la journée et une partie de la nuit, alors là, franchement, c'est le paradis. Le théâtre est ainsi pour moi un couvent. L'agitation du monde meurt au pied de ses murs. Et à l'intérieur de l'enceinte sacrée, une communauté de moines travailleurs, voués à un seul but, tournés vers une seule méditation, prépare inlassablement l'office qui sera célébré pour la première fois. Entendons-nous, les acteurs en tant que personnes sont aussi décevants que n'importe quelle créature humaine, y compris d'ailleurs le metteur en scène. Et d'autant plus décevants parfois qu'on s'est laissé aller à beaucoup les aimer. Mais les déceptions, si déceptions il y a, surviennent presque toujours après la période de travail, quand chacun retourne à sa nature solitaire. On dit dans ce métier où l'on n'a pas très fort sur la logique, et on le dit avec la même conviction, que ce qui gâte les troupes, c'est le succès, ou bien au contraire, que ce qui gâte les troupes, c'est l'échec. Il n'en est rien. Ce qui gâte les troupes, c'est presque toujours la fin de l'espoir qui, pendant les répétitions, les tenait réunis. Car cette communauté n'est si étroitement unie que par la proximité du but ou de l'enjeu. Un parti, par exemple, un mouvement, une église, sont aussi des communautés. Mais le but qu'elles poursuivent se perd dans la nuit de l'avenir. Mais pour en rester aux considérations personnelles, je dois ajouter que le théâtre m'aide à fuir l'abstraction qui menace tout écrivain. De même qu'au temps où je faisais du journalisme, je préférais le travail des mises en page sur le marbre des imprimeries à la rédaction de ces sortes de prêches qu'on appelle éditoriaux. De même, j'aime qu'au théâtre, l'œuvre s'enracine au niveau des praticables, des projecteurs, des toiles et des objets. Je ne sais qui a dit que pour bien mettre en scène une pièce, il fallait connaître le poids des décors par les bras. C'est une grande règle d'art. Et pour ma part, j'aime ce métier, qui m'oblige à considérer en même temps que la psychologie des personnages, la place d'une lampe ou d'un pot de géranium, le grain d'une étoffe, le relief et le poids d'un caisson qui doit monter au cintre. Et lorsque mon ami Maillot dessinait les décors des possédés, nous étions d'accord pour penser qu'il fallait commencer par des décors construits, un salon lourd, des meubles, enfin le réel, et pour enlever peu à peu la pièce vers une région plus élevée, moins enracinée dans la matière, pour styliser en somme le décor. La pièce se terminerait ainsi dans une sorte d'irréelle folie, mais elle serait partie d'un lieu précis et chargé de matière. N'est-ce pas la définition même de l'art ? Non pas le réel tout seul, ni l'imagination toute seule, mais l'imagination à partir du réel. C'est là, en tout cas, ce que m'apprend le théâtre.
Voilà, vous venez d'entendre Albert Camus dans l'émission Gros Plan, qui lui était consacrée, enregistrée au Théâtre Antoine en 1959. Albert Camus parle bien du théâtre comme d'un remède à l'abstraction, donc une façon pour lui de passer l'œuvre au tamis du réel, de confronter l'idée à la pratique et de donner par là même à la pensée la souplesse d'une interprétation. Il dit du théâtre et du football qu'ils ont été ces deux universités. Lorsque son ami Charles Poncet demanda à Camus quelle activité il aurait choisi justement du football ou du théâtre si sa santé le lui avait permis, Camus répondit le foot sans hésiter. Mais L'histoire raconte qu'un jour, sur un stade d'Alger, Camus, qui était gardien de but, bloqua de la poitrine le tir d'un avant-centre adverse et s'évanouit entre les poteaux. Il fera donc du théâtre, en espérant d'abord traduire sur les planches le désir qui est le sien de, ce sont ses propres termes, diminuer la somme de malheur ou d'amertume qui empoisonne les hommes. Et depuis le théâtre du travail, où, à 20 ans et plus, adaptant Malraux, Gorky, Machiavel et Balzac, Camus découvre le bonheur des mises en scène, jusqu'à la mise en scène ultime des possédés de Dostoïevski au théâtre Antoine, dont nous parlerons tout à l'heure avec Elena Bossis, l'existence de Camus est inséparable de l'expérience théâtrale. Un peu comme s'il fallait à la fois des planches et du vertige à ce Français d'Algérie sans certitude. Alors, je vous propose maintenant d'écouter Camus poursuivant sa réflexion sur le théâtre au micro de la Radiodiffusion française.
Albert Camus, vous avez réussi au théâtre la chose la plus difficile qui soit. Vous avez transposé dans votre œuvre dramatique des problèmes auxquels vous cherchez désespérément une solution et vous l'avez fait sans jamais tomber dans le travers de la pièce à thèse, de l'horrible pièce philosophique. Vous avez créé des personnages qui existent vraiment. Il me semble que, comme tous les Méditerranéens, vous aviez le théâtre dans le sang.
J'ai appris sur les planches que le théâtre s'embarrasse de peu de choses, de la toile pour les décors et pour la pièce, des caractères et un langage.
Certains critiques se sont obstinés à voir dans votre Caligula l'illustration, qu'il reconnaissait d'ailleurs magnifique, de théorie philosophique. J'y vois plutôt l'étude d'un caractère et aussi la peinture de ce déchirement atroce qu'est le passage de l'adolescence à l'état d'homme. J'aimerais que vous me disiez si à mon tour je suis dans l'erreur.
Caligula n'est en effet que la peinture d'un caractère tel qu'il convient, il me semble, au théâtre, c'est-à-dire simplifié et poussé à bout d'un mouvement irréversible. Pour le reste, j'avoue que je ne sais pas ce qu'est une pièce philosophique. Pour peu que vous vous éleviez un peu au-dessus du lit aujourd'hui, on crie à la métaphysique. Mais je vous proposerai seulement 3 sujets de méditation. Premièrement, il n'y a pas plus d'idées générales et plutôt moins dans le théâtre contemporain que dans Eschyle ou dans Shakespeare. Deuxièmement, s'il m'est arrivé d'entendre parfois des cours de philosophie au théâtre, c'est presque toujours sur les scènes de nos boulevards. Et troisièmement, on confond trop souvent le théâtre écrit et le théâtre d'idées. Si vous n'écrivez pas le mélange d'argot et d'onomatopée qui fait le fond des conversations parisiennes, si vous vous efforcez seulement d'écrire correctement, alors vous êtes un penseur. Qu'importe d'ailleurs, il reste qu'il n'y a pas de théâtre sans grand langage et que ce but idéal est celui vers lequel nous devons tendre. Coppo l'avait compris avant tout autre et c'est grâce à lui que le théâtre a été tiré d'un demi-siècle de vulgarité et rendu à ce qu'il est réellement, c'est-à-dire la forme suprême de l'art littéraire.
Le malentendu a été monté par Marcel Héran au Mathurin en 1943, mais l'œuvre est pourtant bien postérieure à Caligula.
Oui, elle a été écrite en 1942, 5 années et une guerre la séparent de Caligula. En chemin, les coquetteries se sont perdues et il a fallu le vrai courage de mon ami Héran pour songer à représenter cette pièce aride.
Oui, le malentendu marque à mon avis un très grand pas vers un classicisme très pur, dépouillé. Il me semble que vous avez pris avec cette pièce un très grand risque. Je veux dire que vous avez fait très largement crédit à la subtilité et à la compréhension des spectateurs.
Je sais qu'il est de règle de feindre une belle humilité à l'égard du public. En ce qui me concerne, je place cependant mon humilité ailleurs. Et je dirais simplement qu'un auteur dramatique n'a pas à suivre le public, mais à se faire suivre de lui. Le malentendu n'est pas une pièce réussie. Elle l'est beaucoup moins que l'état de siège, par exemple, et j'en referai volontiers tout le deuxième acte. Mais je peux vous assurer au moins qu'elle eût été totalement manquée si j'avais essayé seulement de la rendre plus aimable.
La plus belle scène du malentendu, qui est pour moi une très belle pièce, cher Camus, c'est je crois bien cette scène du troisième acte où Maria, venue à l'auberge pour retrouver son mari, apprend de Martha que son mari est au fond de la rivière où sa sœur et sa mère l'ont jeté. Et au cours de cette scène entre les deux femmes, Martha dit à Maria, « C'est maintenant que nous sommes dans l'ordre, celui où personne n'est jamais reconnu. » C'est là une réplique bien terrible. La prenez-vous en charge personnellement? Je veux dire, exprime-t-elle seulement le désespoir de Martha ou aussi en même temps votre vision du monde?
Eh bien, bien entendu, il y a au moins une part d'entre nous qui ne sera jamais reconnue. Mais pourquoi cela serait-il désespérant? La seule conclusion à en tirer est qu'il ne faut pas aggraver un tel ordre par le mensonge et la simulation. Celui qui ment, quelles que soient ses raisons, est tué. Voilà le sujet du malentendu. Voilà l'ordre dont je parle. Qui dira que cet ordre est bas? Et s'il n'est pas bas, quelle raison de désespérer?
Vous avez dit, au cours d'un entretien avec M. Daubarède, publié, je crois, dans les Nouvelles littéraires, que l'objet de tout artiste créateur était de peindre les passions de son temps. Et vous ajoutiez, aujourd'hui, les passions du siècle sont des passions collectives, parce que la société est en désordre. Ne trouvez-vous pas naturel et même légitime que l'homme s'insurge contre tout ce qui tente à annihiler son destin personnel au profit d'un destin collectif?
Je le trouve naturel et légitime. Et cette lutte d'une vérité charnelle contre les abstractions de la puissance me paraît au contraire la passion centrale de ce temps. Passion si haute, d'ailleurs, qu'elle m'a paru propre à mériter la forme du mystère ou de la moralité. Et c'est ce que j'ai fait avec l'état de siège, pièce essentielle pour moi.
Par ce chemin, je voulais, cher Camus, en venir à celui des personnages des justes qui me semble exprimer cette révolte, le personnage de Dora qu'incarnait de façon inoubliable Maria Cazares. Et j'aimerais que vous nous permettiez de faire entendre cette scène qui est très émouvante, la scène où Dora comprend que l'on ne peut à la fois lutter pour instaurer la justice et accomplir son destin personnel, vivre son amour.
Ce n'est pas de ta faute.
Je lui ai fait du mal. Beaucoup de mal. Sais-tu ce qu'il me disait l'autre jour?
Il répétait sans cesse qu'il était heureux.
Oui. Mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de bonheur pour lui hors de notre communauté. Il y a nous, disait-il, l'organisation, et puis il n'y a rien. C'est une chevalerie. Quelle pitié, Dora.
Il reviendra.
Non. J'imagine ce que je ressentirais à sa place. Je serais désespéré.
Et maintenant, ne l'es-tu pas?
Maintenant, je suis avec vous, je suis heureux comme il l'était.
C'est un grand bonheur.
C'est un bien grand bonheur. Ne penses-tu pas comme moi?
Je pense comme toi. Et alors pourquoi es-tu triste? Il y a 2 jours, ton visage resplendissait, tu semblais marcher vers une grande fête. Aujourd'hui,
je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison, ce n'est pas si simple. Je croyais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait, le courage. Mais je ne suis pas si grand, je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal en moi et chez les autres. Le meurtre, la lâcheté, l'injustice. Ah, il faut que je le tue. Mais j'irai jusqu'au bout, plus loin que la haine.
Plus loin? Il n'y a rien.
Il y a l'amour.
L'amour, non, ce n'est pas ce qu'il faut.
Ah, Dora, comment dis-tu cela, toi, dont je connais le cœur?
Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour. Ils sont dressés comme je suis, la tête levée, les yeux fixes. Que viendrait faire l'amour dans ces cœurs fiers? L'amour courbe doucement les têtes, Yannick. Nous, nous avons la nuque raide.
Et nous aimons notre peuple.
Nous l'aimons, c'est vrai. Nous l'aimons d'un vaste amour sans appui, d'un amour malheureux. Nous vivons loin de lui, enfermés dans nos chambres, perdus dans nos pensées. Et le peuple, lui, nous aime-t-il? Sait-il que nous l'aimons? Le peuple se tait. Quel silence, quel silence.
Mais c'est cela, l'amour, tout donner, tout sacrifier, sans espoir de retour.
Et peut-être... C'est l'amour absolu, la joie pure et solitaire, c'est celui qui me brûle, en effet. Et à certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour n'est pas autre chose, s'il peut cesser d'être un monologue et s'il n'y a pas une réponse, quelquefois. J'imagine cela, vois-tu? Le soleil brille, les têtes se courbent doucement, le cœur quitte sa fierté, les bras s'ouvrent. Ah, Yannick, si l'on pouvait oublier ne fût-ce qu'une heure l'atroce misère de ce monde et se laisser aller enfin. Une seule petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à cela?
Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse.
Tu devines tout, mon chéri, cela s'appelle la tendresse. Est-ce que tu aimes la justice avec tendresse? Est-ce que tu aimes notre peuple avec cet abandon et cette douceur, ou au contraire avec la flamme de la vengeance et de la révolte? Tu vois? Et moi, m'aimes-tu avec tendresse?
personne ne t'aimera jamais comme je t'aime.
Je sais, mais ne vaut-il pas mieux aimer comme tout
je
le monde?
Je ne sais pas n'importe qui, je t'aime comme je suis.
Tu m'aimes plus que la justice, plus que l'organisation.
Ça ne nous sépare pas, toi, l'organisation et la justice.
Oui, mais réponds-moi, je t'en supplie, réponds-moi. M'aimes-tu dans la solitude, avec tendresse, avec égoïsme? M'aimerais-tu si j'étais injuste?
Si tu étais injuste et que je puisse t'aimer, ce n'est pas toi que j'aimerais.
Mais tu ne réponds pas, dis-moi seulement, m'aimerais-tu si je n'étais pas dans l'organisation?
Et où serais-tu donc?
Je me souviens du temps où j'étudiais, je riais, j'étais belle alors. Je passais des heures à me promener et à rêver. M'aimerais-tu légère et insouciante?
Je meurs d'envie de te dire oui.
Et alors dis oui, mon chéri, si tu le penses, si cela est vrai. Oui, en face de la justice, devant la misère et le peuple enchaîné. Oui, oui, je t'en supplie, malgré l'agonie des enfants, malgré ceux qu'on pend et ceux qu'on fouette à mort.
Toi,
non, il faut bien une fois au moins laisser parler son cœur. J'attends que tu m'appelles, moi, Dora, que tu m'appelles par-dessus ce monde empoisonné d'injustice.
Et toi ? Mon cœur ne me parle que de toi, mais... Tout à l'heure, je ne devrais pas trembler.
Tout à l'heure ? Ah oui, j'oubliais. Non, c'est très bien, mon chéri. Ne sois pas fâché, je n'étais pas raisonnable. C'est la fatigue. Moi non plus, je n'aurais pas pu le dire. Je t'aime du même amour un peu fixe dans la justice et les prisons. L'été, Yannick, tu te souviens? Mais non, c'est l'éternel hiver. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Ah, pitié pour les justes.
Oui. C'est là notre part, l'amour est impossible. Mais je tuerai le grand-duc. Il y aura alors une paix, pour toi comme pour moi.
La paix? Quand la trouverons-nous?
Le lendemain.
C'était un soir d'hiver au théâtre des Mathurins, dans une pièce dont parlait tout Paris, que Camus fit la connaissance d'une actrice encore élève au conservatoire, mais qui, pour le meilleur, allait bientôt s'en faire exclure, une grande tragédienne qui passait son bac entre deux répétitions, par ailleurs fille engagée courageuse d'un premier ministre espagnol en exil, Maria Casares. Quelques mois plus tard, toujours au Mathurin, elle incarna Martha, l'héroïne détestable du malentendu, dans une mise en scène de Marcel Héran sous l'œil fasciné de Camus qui, dans son premier roman, La mort heureuse, avait déjà donné le prénom de Marthe à celle qui incarnait en partie les fautes de sa première épouse, Simone Yé. Trois semaines avant la générale, ils allèrent au bras l'un de l'autre à une fête, dans l'appartement de Charles Dullin, rue de la Tour d'Auvergne, en compagnie de Sartre et Beauvoir, et ils y dansèrent jusqu'au petit matin du 6 juin 1944. En ce qui le concerne, le malentendu de Camus fut un échec cuisant, avec sifflets, articles méchants et mal écrits, etc. Mais Camus n'en avait cure, l'amour l'avait rendu raisonnable. « J'ai mis 10 ans à conquérir ce qui me paraît sans prix, un cœur sans amertume », note-t-il dans ses carnets à ce moment-là. « Personnellement, j'ai reçu à l'occasion de cette pièce la joie la plus grande qu'un auteur puisse recevoir, celle d'entendre porter son propre langage par la voix et l'âme d'une merveilleuse actrice, à la résonance exacte qu'on lui avait rêvée. Cette voix, que je dois à Maria Casares, me suffisait tout à fait. Ils ne seraient plus jamais vraiment loin l'un de l'autre. » Malgré son amour du théâtre, il faut admettre que Camus n'était pas un grand dramaturge. Le philosophe livre pourtant dans ses pièces une version vivante de ses contradictions essentielles. Les justes, c'est-à-dire, pour la première distribution, Maria Casares, Serge Reggiani et Michel Bouquet, qui racontent l'histoire d'un meurtrier délicat, incapable de tuer des enfants, contiennent toute la morale sublime de l'homme révolté, dont la gauche méprise l'indiscipline et dont la droite vomit l'idéalisme. Le malentendu montre qu'il suffirait de dire la vérité pour ne pas être tué et propose une version originale des conflits insolubles qu'il faut surmonter pour faire la paix. L'état de siège, enfin, où l'on voit un géant cruel s'emparer d'une ville pour y imposer la terreur, prolonge à coup sûr les incertitudes et le désarroi de la peste. Mais pour tout dire, les justes ne sont pas un chef-d'œuvre. Le malentendu a surtout été mal compris et l'état de siège, cette histoire à dormir debout, fut à juste titre un échec total. N'était Caligula, géniale parabole sanglante sur la démesure et l'orgueil, dont l'idée lui vint à la lecture de Suétone et de Jean Grenier, le théâtre de Camus ne serait plus guère représenté aujourd'hui. Alors je vous propose maintenant d'écouter Albert Camus interprétant Caligula, en particulier la deuxième scène de l'acte 3, dans un dialogue entre Caligula et Scipion, qui est en fait, pour tout dire, un dialogue entre Camus et lui-même.
Caligula, jusque-là immobile, s'ébroue. Accordez, mes enfants, vos voeux seront exaucés. Ils s'assied en tailleur sur le piédestal, un à un, les patriciens se prosternent, versent leur obol et se rangent à droite avant de disparaître. Le dernier, troublé, oublie son obol et se retire. Mais Caligula, d'un bond, se remet debout. Hé, viens, viens, viens ici, mon garçon. Adorer, c'est bien, mais enrichir, c'est mieux. Merci, cela va bien. Si les dieux n'avaient pas d'autre richesse que l'amour des mortels, ils seraient aussi pauvres que le pauvre Caligula. Et maintenant, messieurs, vous allez pouvoir partir et répandre dans la ville l'étonnant miracle auquel il vous a été donné d'assister. Vous avez vu Vénus, ce qui s'appelle voir avec vos yeux de chair. Et Vénus vous a parlé. Allez, messieurs. Mouvement des patriciens. Caligula, une seconde. En sortant, prenez le couloir de gauche. Dans celui de droite, j'ai posté des gardes pour vous assassiner. Les patriciens sortent avec beaucoup d'empressement et un peu de désordre. Les esclaves et les musiciens disparaissent. Et Lycon menace Scipion du doigt. Scipion, on a encore fait l'anarchiste. Scipion, tu as blasphémé, Caius. Caligula, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Scipion, tu souilles le ciel après avoir ensanglanté la terre. Et Lycon, ouh, mais ce jeune homme adore les grands mots. Il va se coucher sur un divan. Caesonia, comme tu y vas, mon garçon. Il y a en ce moment dans Rome des gens qui meurent pour des discours beaucoup moins éloquents. Scipion, j'ai décidé de dire la vérité à Caius. Caesonia, eh bien, Caligula, cela manquait à ton règne, une belle figure morale. Caligula, intéressé. Tu crois donc au dieu, Scipion? Scipion, non. Caligula, alors je ne comprends pas pourquoi es-tu si prompt à dépister les blasphèmes. Scipion, je puis nier une chose sans me croire obligé de la salir ou de retirer aux autres le droit d'y croire. Caligula, mais c'est de la modestie, cela. C'est de la vraie modestie, mon cher Scipion, que je suis content pour toi. Et puis envieux, tu sais, car c'est le seul sentiment que je n'éprouverai peut-être jamais. Scipion, ce n'est pas moi que tu jalouses, ce sont les dieux eux-mêmes. Caligula, si tu le veux bien, cela restera comme le grand secret de mon règne. Tout ce qu'on peut me reprocher aujourd'hui, c'est d'avoir fait encore un petit progrès sur la voie de la puissance et de la liberté. Pour un homme qui aime le pouvoir, la rivalité des dieux a quelque chose d'agaçant. J'ai supprimé cela. J'ai prouvé à ces dieux illusoires qu'un homme, s'il en a la volonté, peut exercer sans apprentissage leur métier ridicule. Scipion, mais c'est cela le blasphème, Caius. Caligula, mais non, Scipion, c'est de la clairvoyance. J'ai simplement compris qu'il n'y a qu'une façon de s'égaler aux dieux. Il suffit d'être aussi cruel qu'eux. Scipion, il suffit de se faire tyran. Caligula, mais qu'est-ce qu'un tyran? Scipion, une âme aveugle. Caligula, cela n'est pas sûr, Scipion. Mais un tyran est un homme qui sacrifie des peuples à ses idées ou à son ambition. Moi, je n'ai pas d'idées. Et je n'ai plus rien à briguer en fait d'honneur et de pouvoir. Si j'exerce ce pouvoir, c'est par compensation. Scipion, à quoi? Caligula, à la bêtise et à la haine des dieux.
Alors qu'il était encore au conservatoire, Gérard Philippe avait déjà été remarqué dans Sodome et Gomorre de Giraudoux, puis dans Federico de René Laporte, où Maria Cassarès tenait le rôle principal. C'est donc lui, malgré ses 23 ans, que Jacques Héberto, directeur du théâtre éponyme, avait choisi pour incarner Caligula, dont la distribution étrangement ne comportait aucun rôle pour Maria, sous la direction de Paul Eutli, dans un décor de Louis Miquel. La générale du 26 septembre 1945 ne fut pas un succès, mais la pièce fit de Philippe une vedette et de Camus un sage, notant dans son carnet que la renommée n'est dans le meilleur des cas qu'un malentendu, mais qu'il ne prendra pas pour autant l'air supérieur de celui qui la dédaigne. Je vous propose maintenant d'entendre l'hommage qu'Albert Camus fit de Gérard Philippe à la mort de ce dernier, survenu 13 ans plus tard.
À l'hommage que rend ce soir la radiodiffusion télévision française à Gérard Philippe, en réunissant quelques-uns de ses amis, s'associe Albert Camus.
J'ai connu Gérard Philippe il y a 13 ans, je crois, au théâtre Héberto, où il avait créé ma pièce Caligula. La pièce par elle-même n'était pas destinée à toucher un grand public, mais je suis persuadé que c'est la manière exceptionnelle dont Gérard Philippe la joua qui lui permit d'accéder à ce grand public. Depuis, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec Gérard Philippe, qui s'était consacré au cinéma et qui, lorsqu'il paraissait sur une scène, paraissait sur celle du Théâtre National Populaire. C'est un métier où l'on ne voit que les gens avec qui on travaille ou bien ses amis les plus intimes. Mais c'est pourquoi Gérard Philippe est resté pour moi. Ce grand jeune homme qui est rentré en 1946 dans mon bureau et qui, avec un mélange de timidité souriante et d'enthousiasme communicatif, me déclara qu'il avait lu le rôle de Caligula et qu'il était sûr de le jouer à ma satisfaction. Et je dois dire que le fameux charme de Gérard Philippe, qui devait imposer la pièce au public, a commencé à jouer d'abord sur moi. C'est pourquoi, pour moi, c'est ce grand jeune homme rieur et charmant qui vient de disparaître de manière consternante, et sur ce point, hélas, toutes les paroles sont vaines.
Les archives que vous allez entendre maintenant se passent de commentaires. Vous entendrez d'abord Pierre Vanek, interprétant l'ignoble Stavrogin des possédés dans la mise en scène d'Albert Camus lui-même, puis une émission enregistrée à la veille de la première des possédés, justement, au Théâtre Antoine.
Bon. Voici. J'ai écrit un récit qui me concerne et que je vais rendre public. Ce que vous pourrez dire ne changera rien à ma décision. Cependant, je voudrais que vous soyez le premier à connaître cette histoire. Et je vais vous la dire. Oh, bouchez-vous les oreilles! Donnez-moi votre parole de ne pas m'écouter, je parlerai! De 1861 à 1863, j'ai vécu à Pétersbourg, en m'adonnant à une débauche où je ne trouvais aucun plaisir. Je vivais avec des camarades nihilistes qui m'adoraient à cause de mon porte-monnaie. Je m'ennuyais terriblement, tellement même que j'aurais pu me pendre. J'avais trois appartements.
Trois?
Oui, trois. L'un où j'avais installé Maria Lebiatkin, qui est devenue ma femme légitime. Et deux autres où je recevais mes maîtresses. L'un d'eux m'était loué par des petits bourgeois qui occupaient le reste de l'appartement et travaillaient au dehors. Je restais donc seul, assez souvent, avec leur fille de 12 ans qui s'appelait Matryosha.
Voulez-vous continuer ou vous arrêter?
Je continuerai. C'était une enfant extrêmement douce et calme, au visage d'un blond pâle taché de rousseur. Un jour, je ne trouvais plus mon canif. J'en parlais à la propriétaire qui accusa sa fille et, saisissant des verres, je la battis jusqu'au sang, devant moi. Et dans la soirée, je retrouvais mon canif dans les plis de ma couverture. Mais je le mis dans la poche de mon gilet et, une fois dehors, je le jetai dans la rue afin que personne n'en sache rien. Trois jours après, je revins dans la maison de Matryosha.
Vous avez parlé à ses parents?
Non, ils n'étaient pas là. Matryosha était seule.
Ah.
Oui. Seule. Elle était assise dans un coin, sur un petit banc. Elle me tournait le dos. Je restais longtemps à l'observer de ma chambre. Et tout à coup, elle commença à chanter doucement, très doucement. Mon cœur se mit à battre très fort. Je me levai alors et m'approchai lentement de Matryosha. Je m'assis en silence à côté d'elle, sur le plancher. Elle eut peur et se dressa tout à coup. Je lui pris sa main, que j'embrassai. Elle rit comme une enfant. Je la fis se rasseoir et elle se dressa à nouveau avec un air épouvanté. Je lui embrassai encore la main. Et je la pris sur mes genoux. Elle eut un mouvement de recul et me sourit encore. Moi, je riais aussi. Enfin, elle jeta ses bras autour de mon cou et m'embrassa. À cet endroit de mon récit, j'ai laissé un blanc.
Allez-vous me dire la suite?
Non, non. Plus tard, peut-être, quand vous en serez digne. Il ne s'est rien passé, qu'allez-vous imaginer? Rien du tout! Le mieux, voyez-vous, serait que vous ne me regardiez pas. Et n'épuisez pas ma patience. Quand je revins 2 jours plus tard, Matryosha s'enfuit dans l'autre pièce dès qu'elle me vit. Mais je pus constater qu'elle n'avait rien dit à sa mère. Et pourtant, j'avais peur. Pendant tout ce temps-là, j'avais une peur atroce qu'elle ne parlât. Enfin, un jour, sa mère me dit, avant de nous laisser seuls, que la fillette était couchée avec la fièvre. Je restais assis, immobile, dans ma chambre, à regarder dans l'autre pièce le lit, dans la pénombre. Au bout d'une heure, elle bougea. Elle sortit de l'ombre, très amaigrie dans sa chemise de nuit, et vint sur le seuil de ma chambre. Et là, hochant la tête, elle me menaça de son petit poing frêle. Puis elle s'enfuit, je l'entendis courir sur le balcon intérieur de la maison. Je me levai alors et la vis disparaître dans un réduit où l'on gardait du bois. Je savais ce qu'elle allait faire. Et vous aussi ?
Oui.
Oui ! Mais je me rassis et me forçais à attendre 20 minutes !
Je me souviens que sur un géranium à côté de moi, une minuscule araignée rouge cheminait lentement.
Quand les 20 minutes furent écoulées, je me forçais à attendre encore un quart d'heure. Et en sortant, je regardais par une fente à l'intérieur du réduit. Matryosha s'était pendue. Puis je sortis et toute la soirée, je jouais aux cartes avec le sentiment d'être délivré.
Délivré ?
Oh oui. Et en même temps, je sentais que ce sentiment reposait sur une lâcheté infâme et que plus jamais je ne pourrais me sentir noble sur cette terre, ni dans une autre vie, jamais !
Est-ce pour cela que vous vous êtes conduit ici d'une façon si étrange ?
Oui, j'aurais voulu mourir, mais j'en avais pas le courage. Alors, j'ai gâché mon existence de la façon la plus bête possible. J'ai mené une vie ironique. J'ai trouvé que ce serait une bonne idée, bien stupide, d'épouser une folle, une infirme dont j'ai fait ma femme. J'ai même accepté un duel où je ne l'ai pas tiré, dans l'espoir d'être tué sottement. Et pour finir, j'ai accepté les fardeaux les plus lourds, tout en n'y croyant pas. Mais tout cela en vain, en vain. Et maintenant, je vis entre deux rêves. L'un où, sur des îles heureuses, au milieu d'une mer lumineuse, les hommes s'éveillent et s'endorment. Innocents. L'autre où je vois Matryosha, amaigrie, me menaçant de son petit poing. Son petit poing.
Oh, je voudrais effacer un acte de ma vie, et je ne le peux pas.
Le 30 janvier, les possédés seront donc à l'affiche du Théâtre Antoine. On serait tenté de dire encore du Dostoïevski. Albert Camus, pourquoi encore du Dostoïevski ?
Eh bien, je crois que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations théâtrales de Dostoïevski, mais, ou du moins c'est l'impression qu'on en a. Mais finalement, il n'y en a pas tellement eu. Parce que, à part l'adaptation que Coppo a fait des Frères Karamazov, que j'ai monté moi-même d'ailleurs il y a près de 20 ans, et d'autre part, l'adaptation des possédés qui a été faite par une jeune compagnie, dans des conditions d'ailleurs très remarquables, plus, je crois, l'adaptation de l'Éternel Marie par Jacques Mauclair, il n'y a pas tellement eu... Ah, j'ai oublié l'adaptation d'Humilié et Offensé, qui a été produite récemment à Paris. Mais enfin, il n'y en a pas eu tellement.
Pourquoi cet auteur qui n'a jamais écrit pour le théâtre exerce-t-il, si j'ose dire, un certain sex appeal sur les hommes de théâtre ?
Eh bien, ce que ça pile à part, n'est-ce pas, je crois que c'est parce que il est véritablement un homme de théâtre. Il procède par dialogue, il procède par indication de mise en scène extrêmement précise, et la durée de ses romans n'a rien à voir avec la durée romanesque telle que, par exemple, Tolstoï l'a installée dans ses livres. C'est une sorte de temps par explosion, par raccourci, par condensation, et par conséquent, c'est le temps dramatique par excellence.
Et je suppose que bien qu'un fil théâtral court dans les possédés, vous vous êtes trouvé devant d'énormes difficultés matérielles. C'est quand même un roman qui fait plus de 1000 pages.
Oui, je crois qu'il en fait 1200 à peu près. Et naturellement, ça a supposé quelques sacrifices. Ceci dit, je dois dire que j'ai été considérablement aidé par ce que j'appellerais la technicité de Dostoïevski en ce qui concerne le théâtre. C'est-à-dire que chaque scène est amenée d'une manière qu'un auteur dramatique envierait, Et chaque scène se termine aussi par des coups de théâtre qu'il a suffi pour moi d'emmagasiner, en somme.
Il y a dans Les Possédés une foule de personnages dans le roman. Vous avez dû être obligé d'en sacrifier quelques-uns, je suppose.
Eh bien, si curieux que ça paraisse, je n'en ai pas sacrifié beaucoup. Je veux dire que j'en ai sacrifié peut-être 6 ou 7 et qui encore m'ont paru secondaires. Pour tous les autres, ils figurent dans l'adaptation et tous leurs actes, ou toutes leurs scènes, si l'on peut dire, se trouvent reportés du roman dans l'adaptation.
Les Possédés, c'est un titre séduisant, mais que signifie-t-il exactement? Est-ce qu'il contient le sujet de la pièce?
Il contient le sujet de la pièce et c'est une allusion à l'écriture, à un passage de Saint-Luc exactement, où il est fait allusion à des possédés par le démon que finalement Jésus et par conséquent l'Évangile a guéri. Vous reconnaissez là naturellement la grande pensée, la grande croyance de Dostoïevski.
J'ai vu les affiches et le nom d'Albert Camus figure en plus gros caractère que celui de Dostoïevski. Vous ne vous êtes donc pas effacé derrière Dostoïevski. Et c'est une pièce d'Albert Camus ou une œuvre de Dostoïevski?
Eh bien, moi, je n'ai pas vu les affiches parce que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et lorsque je les ai vues, j'ai fait remarquer que le contraire aurait dû être fait. Par conséquent, je m'efface réellement devant Dostoïevski.
Simone Berriot, vous avez ouvert le Théâtre Antoine aux Possédés et je crois qu'il faut souligner que c'est un acte courageux.
Bon, pas courageux en soi de monter Les Possédés, surtout pas de monter une pièce de Camus que j'attends déjà depuis des années, car j'ai eu ici beaucoup d'auteurs. Évidemment, Camus n'était pas venu. Alors voilà, nous montons Les Possédés. C'est une entreprise très difficile, en effet, très coûteuse aussi, qui va exiger tout de même du public un peu de patience. D'abord, il faut lui demander de venir à 8 heures du soir.
Ça sera difficile.
Oui, bien sûr. Et puis, enfin, j'ai tout de même été très gâtée, parce que tout de même, souhaitant une pièce de M. Camus, il m'a apporté une pièce qui dure 3 heures et quart.
Mais c'est une pièce et demie.
C'est merveilleux, je suis très gâtée. D'ailleurs, je suis persuadée que aussi bien le public du Théâtre Antoine, qui m'est très fidèle, que tout le public d'ailleurs, sera très gâté et sera ravi.
Je ne peux pas vous demander, Albert Camus, de nous présenter les 26 personnages, mais au moins quelques-uns de vos acteurs.
Eh bien, je vais d'abord vous présenter, dans l'ordre d'entrée en scène, M. Pierre Blanchard, que vous connaissez naturellement.
Et qui connaît bien Dostoïevski, et qui doit un de ses plus grands succès, un film avec Dostoïevski. De vous, André Aubet, déclare dans le programme, Pierre Blanchard est un homme qui a une ombre.
Oui, et les explications qu'il lui en donne, qu'il donne à cette La Palissade, sont extrêmement flatteuses. Alors je vous recommande de ne pas les prendre trop au sérieux parce que André Aubé est un très grand ami et un très grand poète.
Mais je crois justement qu'on peut se fier au jugement de ceux qui sont à la fois des poètes et des amis.
C'est une opinion.
Oui.
C'est une opinion que nous partageons. Et maintenant je vais vous présenter Madame Tania Balachova qui, dans l'ordre d'entrée en scène, suit Monsieur Pierre Blanchard. Madame Balachova est russe, comme vous savez, par conséquent, toute désignée pour figurer dans Les Possédés.
Et elle aime son rôle.
Oh, c'est un rôle fort attachant. Avec ses deux passions, l'une pour son fils Nicolas Stavrogine et puis la deuxième qu'elle a cachée pendant 20 ans pour Stepan Trofimovitch Blanchard.
Et toujours dans l'ordre d'entrée en scène, je vous présente Michel Bouquet qui joue le révolutionnaire nihiliste Pierre Verkhovensky.
Et qu'en pense-t-il de ce...
Je pense que c'est le plus possédé de tous, enfin, le plus démoniaque de tous ces démoniaques, donc diabolique. Le plus effarant.
Il ne me reste plus qu'à vous présenter Pierre Vanek, qui dans cette pièce joue le rôle d'un aristocrate décadent, Stavrogine.
Que pouvez-vous nous dire de ce rôle?
Ce qui m'a passionné dans le rôle, d'abord, je crois que c'est un des plus grands parmi les héros de roman. Et puis ensuite, c'est un personnage actuel. À l'époque où le roman a été écrit, c'était un personnage prophétique. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que les Stavrogine peuplent le monde.
Et on en arrive à la raison pour laquelle, dans le fond, vous avez monté cette pièce, Albert Camus.
On ne pouvait pas mieux la définir que Pierre Vanek vient de le faire.
Pour son actualité.
Pour son actualité.
Mais qui sont ces Stavrogine dont le monde est plein? Le Stavrogine de Dostoïevski est un monstre, un salaud de la pire espèce, une crapule folle et lucide, un assassin dont la force ne lui sert qu'à se faire craindre des humains qu'il abomine. Camus raffole de ces personnages métaphysiques, ces demi-lucides sans espoir ni morale, dont la vision du monde est une aversion du monde. Mais dire que le monde est plein de stavrogine ne veut pas seulement dire que le monde est plein d'ordures sanguinaires, mais qu'il déborde, plus modestement, d'individus que la peur de mourir rend, sinon meurtrier, du moins malhonnête et violent. Stavrogine n'est pas seulement un violeur d'enfants, un tueur d'innocents, une brute élégante, un bouffon du néant qui vomit l'indolence et reproche à Dieu de ne pas exister. Stavrogine, c'est aussi la face cachée des prophètes, l'envers funeste de l'idéal révolutionnaire, l'insigne lâcheté qui porte les hommes à croire tout ce qu'on leur raconte pour détourner les yeux d'un monde que son absurdité rend invivable. Ça ne lui plairait pas, mais Stavrogine ressemble, plus qu'il ne voudrait, aux petits hommes qu'il méprise de toute son âme. En somme, le drame de Stavrogine, et de la condition humaine avec lui, c'est que Stavrogine, c'est aussi Monsieur Tout-le-Monde.
Acteur à 20 ans, auteur dramatique à 30 et metteur en scène à 40, Albert Camus est un homme de théâtre complet. Il est un de ceux pour qui le théâtre a de l'importance, c'est-à-dire qu'il est un de ceux pour qui le théâtre est à la fois un texte, un jeu, une présence, une délivrance. Camus sait qu'on peut mesurer le niveau d'une civilisation, entre autres, au niveau de son art dramatique. Il sait aussi par quel secret détour le comédien parle pour tous.
C'est donc à Albert Camus que nous demanderons de tirer la conclusion de cette émission.
Ce texte, lu par Albert Camus, est extrait du mythe de Sisyphe.
La convention du théâtre, c'est que le cœur ne s'exprime et ne se fait comprendre que par les gestes et dans le corps, ou par la voix qui est autant de l'âme que du corps. La loi de cet art veut que tout soit grossi et se traduise en chair. S'il fallait sur la scène aimer comme l'on aime, user de cette irremplaçable voix du cœur, regarder comme on contemple, notre langage resterait chiffré. Les silences ici doivent se faire entendre, l'amour hausse le ton, et l'immobilité même devient spectaculaire. Le corps est roi. N'est pas théâtral qui veut, et ce mot déconsidéré à tort recouvre toute une esthétique et toute une morale. La moitié d'une vie d'homme se passe à sous-entendre, à détourner la tête et à se taire. L'acteur est ici l'intrus. Il lève le sortilège de cette âme enchaînée, et les passions se ruent enfin sur leur scène. Elles parlent dans tous les gestes, elles ne vivent que par cris. Ainsi, l'acteur compose ses personnages pour la montre. Il les dessine ou les sculpte. Il se coule dans leur forme imaginaire et donne à leur fantôme son sang. Je parle du grand théâtre, cela va sans dire, celui qui donne à l'acteur l'occasion de remplir son destin tout physique. L'échelle même du corps humain est insuffisante. Le masque et les cothurnes, le maquillage qui réduit et accuse le visage dans ses éléments essentiels, le costume qui exagère et simplifie, cet univers sacrifie tout à l'apparence et n'est fait que pour l'œil. Par un miracle absurde, c'est le corps qui apporte encore la connaissance. Du personnage absurde, l'acteur a par suite la monotonie. Cette silhouette unique, entêtante, à la fois étrange et familière, qu'il promène à travers tous ses héros. Là encore, la grande œuvre théâtrale sert cette unité de ton. C'est là que l'acteur se contredit. Le même est pourtant si divers. Tant d'âmes résumées par un seul corps. Mais c'est la contradiction absurde elle-même, cet individu qui veut tout atteindre et tout vivre, cette vaine tentative, cet entêtement sans portée. Ce qui se contredit toujours s'unit pourtant en lui. Il est à cet endroit où le corps et l'esprit se rejoignent et se serrent, où le second, lassé de ses échecs, se retourne vers son plus fidèle allié. Et béni soient ceux, dit Hamlet, dont le sang et le jugement sont si curieusement mêlés, qu'ils ne sont pas flûtes, où le doigt de la fortune fait chanter le trou qui lui plaît.
Voilà, c'est la fin de ce troisième temps d'une semaine consacrée à Albert Camus dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, une semaine qui consiste dans la rediffusion des archives montées avec Marie-France Thivault à l'occasion d'une grande traversée de la pensée d'Albert Camus, une semaine qui est également pour moi l'occasion de rendre hommage d'ailleurs au travail de Marie-France, une réalisatrice hors pair avec qui ça avait été un bonheur de travailler à l'été 2006. Une semaine arrangée et remontée pour les besoins de la cause par Bertrand Chometon et Julien Douminc à la technique. Une semaine que vous pourrez évidemment réentendre et télécharger, je le dis tous les jours, sur notre site internet à la page des Nouveaux Chemins, où vous trouverez également toutes les indications bibliographiques nécessaires à la redécouverte d'Albert Camus et en particulier de son théâtre. Une semaine qui se prolonge demain jeudi par l'évocation du rapport d'amour que Camus entretenait avec sa terre natale, l'Algérie française, dont il ne verra jamais l'indépendance. À l'issue du troisième épisode de cet hommage à Camus, on retrouve tout de suite le journal des Nouveaux Chemins de la Connaissance avec Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Et bonjour à tous. On quitte Camus et le théâtre pour continuer notre recension de l'actualité éditoriale autour de Sigmund Freud, 70 ans après sa mort et dont on va bientôt trouver en librairie toutes les œuvres sous toutes les formes, en petit et grand format, en œuvre complète ou sous forme d'extrait de texte, à l'occasion de l'entrée de son œuvre dans le domaine public. Hier, on a parlé de l'interprétation des rêves avec François Robert. Et aujourd'hui, c'est de l'écriture de Freud dont nous allons parler, de l'écriture et surtout de la traduction du texte freudien en une autre langue, autour d'un ouvrage intitulé « L'écriture de Freud, traversée traumatique et traduction » aux éditions PUF et dont l'auteur est Janine Altounian qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Janine Altounian.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes co-traductrice de Freud depuis 1970 et responsable de l'harmonisation dans l'équipe éditoriale des œuvres complètes de Freud aux Presses universitaires de France, entreprise dirigée par Jean Laplanche et que Pierre Cottet va venir nous présenter en détail ce vendredi. Ce qui vous intéresse, vous, Janine Altounian, dans ce travail, dans cette entreprise, c'est le rapport de la pensée à l'écriture ou comment la forme, l'écriture, exprime en elle-même le fond, le contenu de ce qui est exprimé.
Oui, tout à fait. Alors, écoutez, je commencerai par me référer à Antoine Berman, qui dit que la traduction est la transmission active d'une forme. Or, par ailleurs, en ce qui concerne la pensée de Freud, qui serait donc non pas qui prendrait une certaine forme, mais qui serait le fond, nous avons aussi ces mots très précieux de Didier Anzieux, qui dit que la psychanalyse est née de l'emboîtement des cultures chez Freud, c'est-à-dire que la culture d'appartenance de Freud est donc germanique, dit-il, et peut-être également juive, alors que sa culture de référence est gréco-romaine. Alors, ceci explique qu'il y a constamment chez Freud, dans l'écriture de Freud, des entrecroisements de différents champs et que cet entrecroisement crée une écriture à la fois simple mais en même temps très complexe dans la mesure où c'est dans une langue relativement simple, comme on dit ou comme on le croit, que Freud a forgé ses concepts. À cela s'ajoute une troisième dimension, c'est que Freud est en même temps un écrivain dans nombre de passages et que lorsqu'on sent chez lui une implication esthétique et affective, son style s'en ressent. Alors, ces différentes dimensions dans la forme rend évidemment la traduction difficile dans la mesure où on n'a pas à traduire seulement sa pensée, mais précisément la forme qu'elle prend dans les mots qu'il utilise.
Est-ce que ça veut dire que l'entreprise de traduction de Freud ne concerne pas uniquement le sens de ce qu'il écrit, mais également la forme de son écriture ?
C'est
ça. Il faut essayer de ressaisir, de rendre à nouveau dans une autre langue.
Tout à fait. Alors, mon livre, si vous voulez, ou ma participation dans cette équipe, tient à ce que je suis particulièrement sensible, ce qui est paradoxal, à ce qui ne passe pas facilement dans la traduction.
C'est-à-dire peut-être ce que l'on va inévitablement perdre lorsqu'on
voilà,
traduit.
Voilà, et donc si vous voulez, je soutiens l'idée que avoir telle ou telle option de traduction, c'est en fait choisir ce qu'on veut perdre. Dans toute traduction, il y a quelque chose à perdre. Et si je me suis toujours plu dans les options de ce travail, aux œuvres complètes, au PUF, c'est que c'est un choix de très grande fidélité au texte et que je me retrouve mieux dans ce qui est perdu malgré cette fidélité.
Mais vous insistez sur la dimension de perte qui est inhérente à toute traduction, mais est-ce que la traduction n'est pas finalement le signe d'une double perte, dans la mesure où déjà à l'origine, toute écriture est déjà en elle-même une traduction. Écrire, c'est essayer d'exprimer à travers des mots ce qui va relever d'un vécu ou d'une pensée. Donc l'écriture première est déjà elle-même une traduction. Et donc en ce sens, la traduction d'une écriture engendre une double perte.
Absolument, absolument. C'est pourquoi Jean Laplanche dit que dans le travail de traduction, il y a non pas deux personnages, mais un troisième qu'il faut prendre comme référence. C'est-à-dire le troisième qu'il appelle, je crois, traduire d'un texte inconnu.
Alors vous parlez, dans le cas de Freud précisément, de la traduction d'une expérience traumatique. Alors quelle est-elle, cette expérience traumatique ?
Bien, si vous voulez... J'ai employé ce mot-là parce que moi, je suis sensible à la problématique de l'exil, étant d'origine arménienne. Mais je trouve que Freud lui-même fait état dans son autobiographie et également dans les textes de la dimension de l'exil. Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis attentive au fait... Au plaisir qui ne passe pas. Excusez-moi, je vais vous donner un exemple très concret.
Allez-y.
Où en même temps, on voit comment la pensée de Freud s'imprime plus dans la forme que dans le sens de ce qu'il dit. Par exemple, il dit le refoulement se comporte comme... Le comportement du refoulement se comporte comme une digue contre l'assaut des eaux. Bien, c'est comme ça qu'on peut traduire, disons, cette phrase. C'est dans le texte du refoulement. Or, il se trouve qu'il emploie deux mots qu'on a été obligé de traduire par le refoulement et l'assaut, qui ont exactement le même radical. Le même radical étant Drang, ce Drang qu'on trouve dans le Sturm und Drang, qui a été traduit par tempête et élan. Eh bien, ce drang-là, qui est dans le refoulement, Verdrängung, se retrouve dans l'assaut des eaux, Andrang, ce qui veut dire que quand on lit ça en allemand, on voit très bien le rapport entre le refoulement et l'assaut, c'est-à-dire die Verdrängung et der Andrang. C'est-à-dire que l'un agit contre l'autre avec tout simplement, je dirais, l'adjonction d'une particule différente.
À vous écouter, on est déjà au cœur de votre livre.
Voilà,
on voit bien à quel point vous prenez des exemples concrets pour exprimer votre pensée. Je renvoie également l'auditeur à ce chapitre sur le rapport de Freud à Lou Andreas Salomé. Donc à la fois ce rapport épistolaire qu'il a avec cette femme et ce rapport théorique. Merci beaucoup Jeannine Altounian. Je rappelle donc que vous êtes co-traductrice de Freud depuis 1970 et que vous avez participé à quasiment toutes les œuvres qui seront publiées au PUF, donc aux Presses universitaires de France ce mois-ci. Merci beaucoup. Autre actualité philosophique, on trouve en ce moment aux éditions du Cerf un ouvrage de Robert Spemann, qui est une figure éminente de la philosophie morale en Allemagne, et qui dans ce livre intitulé « Les personnes » revisite l'idée aristotélicienne de nature humaine. C'est un essai sur la différence entre quelque chose et quelqu'un, c'est le sous-titre de ce livre, qui essaie d'allier les réflexions entre le point de vue purement intérieur du sujet et la perspective externe, celle du sociologue par exemple, dans laquelle les individus sont saisis. Que signifie être une personne, avoir une nature ? C'est dans un style limpide, utilisant des exemples concrets et des références précises que l'auteur tente de répondre à ces questions. Les personnes, essai sur la différence entre quelque chose et quelqu'un, c'est donc un essai que l'on trouve en ce moment aux éditions du Cerf. Camus, Freud et Spemann, c'était le programme des Nouveaux Chemins de la Connaissance aujourd'hui. Retrouvez en ligne toutes les informations concernant nos invités, leurs livres et d'autres pistes de réflexion sur les sujets abordés sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Merci à Bertrand Chometon et Christine Robert pour avoir réalisé cette émission. 10h59, vous êtes sur France Culture et dans un instant, question d'époque.